Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour sur les temps forts de la semaine avec le duel et puis le débat. Faut-il vraiment regretter le sens de la nuance? On peut tous en faire l'expérience et se reconnaître dans cette phrase. Nous étouffons parmi les gens qui pensent avoir tout le temps raison. Je ferme les guillemets. Ces mots sont d'Albert Camus, cités par l'essayiste, le directeur du Monde des Livres, Jean Birnbaum. Il publie « Le courage de la nuance » aux éditions du Seuil, un livre où il fait ce constat amer. Au-delà même de Twitter ou de Facebook, le champ intellectuel médiatique se confond avec le champ de bataille où tous les coups sont permis. Partout, de féroces prêcheurs préfèrent attiser les haines plutôt qu'éclairer les esprits. Fin de citation. Mais quoi de nouveau sous le soleil? Et peut-on vraiment rêver d'un monde libéré de la brutalisation du débat public? On en parlera avec Jean Birnbaum qui nous rejoindra dans une vingtaine de minutes. Il sera l'invité du grand face-à-face. Mais d'abord, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Confinement, acte 3, jour 1. Est-ce que vous avez compris les règles d'ailleurs des attestations, deux pages et tellement de cases à cocher, Natacha?
Je pense que nous avons de nouveau atteint un sommet dans cet art très français de la bureaucratie. Et je pense que, bon, c'est un an après, on finit par en rire, mais de fait, on comprend bien la volonté du gouvernement d'essayer de construire le plus finement possible ce troisième confinement pour justement éviter les dégâts collatéraux.
Je vous interromps, Natacha. Je vous interromps, Natacha. Ne dites pas confinement.
C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle quelle de celles que nous avions mises en place en mars et en novembre dernier, car depuis le début de l'épidémie, il y a exactement un an, le temps a passé, la crise a duré, mais nous avons appris.
Jean Castex, c'était jeudi soir, alors je disais qu'il ne fallait pas dire confinement, mais c'est la seule occurrence au cours de sa conférence de presse où il a employé le terme et le président de la République disait ensuite que nous ne vivions pas une situation de confinement. Ça vous fait rire, Natacha?
Oui. Oui, ça, je pense que ça nous fait rire tous les deux, les jeux sur les mots. Après, le reste est plus complexe et la question est de savoir si ces nouvelles mesures vont permettre réellement, dans leur finesse, puisqu'on a bien compris que le gouvernement essayait d'adapter à la situation le plus possible en continuant sur son idée que je trouve légitime, d'essayer au maximum de faire vivre l'économie. Mais est-ce que du coup, ça servira à quelque chose? Il y a par exemple, c'est vrai, des absurdités. Je veux dire, on a déjà ici parlé depuis le début de cette crise du cas des libraires, des disquaires. Mais à partir du moment où on laisse ouvert les libraires pour les meilleures raisons du monde et parce que les livres sont indispensables, etc., il devient très compliqué de ne pas donner d'autres dérogations parce que, de fait, ça ne peut apparaître que comme une injustice. Et donc, on entre dans le vaste domaine des dérogations et des dérogations aux dérogations.
Gilles Finkelstein.
Oui, je pense qu'il est légitime dès lors qu'il y a des nouvelles connaissances, que la situation évolue, qu'il y ait des nouvelles réponses et donc chaque confinement ait ses caractéristiques particulières. Mais je dois avouer, même si c'est pas très satisfaisant pour l'esprit, et en tout cas pour l'acuité des débats, une très profonde circonspection après ce troisième confinement. C'est vrai sur le mot, parce que quand on essaye sincèrement de se demander est-ce que c'est un confinement ou pas, on se dit à la fois non, c'est pas Emmanuel Macron qui l'a annoncé, or c'est Emmanuel Macron qui annonce le confinement, et donc peut-être en tout cas c'est qu'il ne veut pas que l'on pense que c'est un confinement, non parce que c'est pas la France entière, il y a malgré tout 2/3 de la France qui ne vit pas dans le confinement, non parce qu'on n'est pas confiné à l'intérieur, on est dans cette figure qui est un peu originale d'être
confirmé à l'extérieur,
mais oui, parce que il y a quand même l'importance à la fois économique, symbolique de l'Île-de-France, le retour des attestations et des attestations pour le moins baroque, puisqu'il n'y a plus de limitation de temps. Le retour, on l'a vu hier, de ces gares surchargées avec les franciliens qui quittent leur région. Donc, d'une certaine manière, on peut se dire que c'est une question vaine. Est-ce que c'est confinement ou pas confinement ? Mais ce qui est significatif, c'est ce sentiment que nous sommes nombreux à avoir d'être dans une espèce d'entre-deux. C'est un peu la même chose si on se pose la question de savoir est-ce que c'est un échec pour Emmanuel Macron.
Oui.
Il a pris, on le sait, il a pris un risque fin janvier en ne suivant pas ce que la majorité des scientifiques préconisaient. Et on peut se dire à la fois il a eu raison, parce que les prévisions qui étaient faites alors étaient d'un pessimisme qui était excessif, et donc malgré tout on a gagné un certain nombre de semaines, et on peut se dire aussi il a eu tort parce que la situation s'est dégradée, lentement certes, mais elle s'est dégradée au point que aujourd'hui il était intenable de ne pas prendre de mesures supplémentaires. Et donc, circonscription à nouveau. Et enfin, circonspection. Et Natacha l'a dit sur l'élément le plus important, c'est-à-dire sur l'efficacité de ce dispositif. Parce que lorsqu'il y avait une progression exponentielle du virus,
oui,
il y a eu un coup de frein qui était brutal et un effet qui était spectaculaire. La courbe était cassée. Là, on a une progression qui est linéaire, qui n'est plus exponentielle. On a un coup de frein qui est modéré. Et donc, on a un effet qui est extrêmement aléatoire. En fait, tout cela va dépendre de la manière dont nous, Français, allons nous saisir de cette nouvelle situation.
Natacha.
Je pense qu'on a compris là aussi que la stratégie d'Emmanuel Macron, que certains jugent scandaleuse, d'autres bonne, d'autres légitime, cette stratégie devait fonctionner sur deux jambes, c'est-à-dire maintenir une circulation du virus qui évite la saturation des hôpitaux pendant qu'on montait en puissance sur la vaccination. L'échec, si échec il y a, vient de là. De la deuxième jambe, même si on a bien compris que toute une part des scientifiques considèrent que, quoi qu'il arrive, il fallait confiner beaucoup plus tôt, mais les mêmes voulaient confiner au mois de décembre et nous expliquaient que ce serait l'apocalypse en janvier. Donc la tentative d'équilibre est tout à fait justifiée, mais elle est justifiée quand on a les moyens de faire le reste, c'est-à-dire d'avancer sur la vaccination, d'organiser un petit peu mieux que ça ce qui pêche toujours, qui est le traçage des malades, leur isolement, etc., etc. Et je pense que le problème est qu'on a l'impression de n'avoir pas appris depuis un an. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'a toujours pas les instruments pour mener la politique qu'il voudrait mener, et il se retrouve obligé lui-même d'avouer que c'est le virus actuellement qui est devenu maître du temps. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de confinement ou non confinement. On n'est pas dans une solution binaire. On est dans un travail beaucoup plus complexe. Et un seul point, mais on va y venir à cette question de la vaccination, un point
on
essentiel.
On va en parler, oui.
On reconfine l'Île-de-France. L'Île-de-France est une des régions de France qui, proportionnellement à sa population, a le moins vacciné. Pourquoi ? C'est une aberration dans la mesure où c'est la région la plus peuplée avec des densités de population fortes. C'est véritablement un mystère total que cette incurie de ce point de vue-là. Et il ne faut pas s'étonner ensuite que les mesures, en effet, de couvre-feu, etc., n'aient pas été suffisantes pour enrayer la circulation des variants, des nouveaux variants.
Gilles ?
Oui, juste deux mots. Je crois pas que le retard de l'Île-de-France soit à ce point une aberration, parce que la raison principale pour laquelle l'Île-de-France est en retard est une raison démographique, c'est que c'est la région qui est la plus jeune, et donc dans laquelle la proportion de personnes en capacité d'être vaccinée est la moins importante. Deuxièmement, je ne suis pas convaincu non plus, mais ça fait un moment qu'on a cette discussion avec Natacha sur cette idée d'une course de vitesse entre le virus et la vaccination, tout simplement parce que cette course de vitesse est perdue d'avance dans la mesure où on voyait les commandes de vaccins, de doses qui devaient arriver et la progression du virus. Et donc ça, c'est comme si je fais une course avec Usain Bolt. Il y a une course, mais on sait qui va gagner.
Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Dans d'autres pays, la campagne de vaccination l'a emportée et est allée plus vite que la progression du virus.
Oui, mais on sait depuis maintenant des mois et des mois que ça ne sera pas le cas en Europe.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire. Il s'agit d'un vaccin sûr et efficace. Ses avantages dans la protection des personnes contre la COVID-19, avec les risques associés de décès et d'hospitalisation, l'emportent sur les risques possibles.
C'était la directrice de l'Agence européenne du médicament, Emer Cook, qui se prononçait jeudi en faveur de la reprise de la campagne de vaccination avec le produit du laboratoire britannico-suédois AstraZeneca. Avec cet argument, les bénéfices l'emportent sur les risques. Et l'on a vu en France le Premier ministre Jean Castex donner l'exemple en se faisant vacciner avec ce produit. Gilles, comment expliquer ce feuilleton invraisemblable autour de ce vaccin-là, AstraZeneca, feuilleton donc qu'on a suivi pendant toute la semaine de manière assez étonnée?
Eh bien, écoutez, moi je ne trouve pas ce feuilleton invraisemblable.
Non?
Du tout. J'ai en réalité pas grand-chose à opposer aux décisions qui ont été prises. Je trouve que la décision politique de suspension de la vaccination était irrépressible et inévitable. Lorsque vous avez, c'est une sorte de mouvement de foule, je ne sais pas qui a utilisé cette expression, qui s'est produit en Europe, où les pays, les uns après les autres, ont suspendu la vaccination. Et d'expérience, je peux dire qu'il n'y a pas un pouvoir politique qui peut résister à un mouvement d'une telle ampleur. Et qu'en réalité, le président de la République a moins suivi les autres, et notamment moins suivi l'Allemagne, qu'il a précédé l'opinion. De fait, 70% des Français ont considéré que cette décision était une prudence qui était légitime. De la même manière, je crois que je n'ai pas grand-chose à opposer aux décisions qui ont été prises par les autorités sanitaires, autorités indépendantes, européennes et nationales. Ça a permis, autant qu'il est possible avec les connaissances dont on dispose, une clarification. L'élément très important qu'il n'y a pas de lien entre les décès et les thromboses classiques, le retour de la vaccination pour les plus de 55 ans et puis la poursuite des investigations sur les cas extrêmement peu nombreux mais très problématiques puisqu'il y a eu des morts sur lesquels on ne sait pas s'il y a un lien de causalité ou s'il y a d'autres facteurs de risque. Donc tout ça me semble s'être passé de la manière dont ça doit se passer. La question après qu'on peut se poser et dont on va débattre, c'est qu'est-ce que ça veut dire sur la campagne de vaccination, qu'est-ce que ça veut dire sur le pouvoir politique. Oui. Mais ce qui s'est passé cette semaine ne me semble pas invraisemblable du tout.
Natacha Polony.
Pour ma part, cela me semble invraisemblable dans la mesure où le calendrier est incompréhensible. C'est-à-dire que des pouvoirs politiques soient contraints de prendre ces mesures-là sous l'effet de l'opinion, sans doute. Cela dit, cette opinion, elle réagit à la mise en avant de quelques cas de thrombose qui, certes, doivent être vérifiés et de la façon la plus rigoureuse qui soit, nous en sommes tous d'accord. Le problème est de savoir si on mesure réellement et si la communication qui est faite autour de cela met en avant ce fameux facteur bénéfice-risque. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on semble en Europe, dans ce calcul justement et dans cette analyse de ce qu'est le vaccin AstraZeneca, on semble écarter totalement l'expérience britannique. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. La campagne massive en Grande-Bretagne avec ce vaccin ne laisse pas penser, ne permet pas de conclure dans la mesure où il y a un contrôle sanitaire qui me semble assez important en Grande-Bretagne, au moins aussi important que en Europe, pourquoi on n'en tient pas compte et que on stoppe la vaccination. Il faut observer que ce sont les pays scandinaves qui les premiers ont stoppé la vaccination, qui sont des pays qui sont nettement moins touchés par le coronavirus et qui n'ont pas le même rapport que des pays comme la France, justement, à cette question de la précaution et du soin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'Allemagne et la France s'étaient mis d'accord pour attendre, justement, avant toute décision, le retour de l'Agence européenne du médicament. Je veux dire, soit on prend des précautions longtemps à l'avance en considérant qu'il y a un doute, soit on attend le retour de l'AME. Là, deux jours avant, l'Allemagne décide sans avoir respecté son accord avec la France, décide unilatéralement de suspendre. Ces deux jours sont incompréhensibles. Je veux dire, soit il fallait le faire avant, soit on attend la décision au lieu de prendre une décision unilatérale qui va provoquer forcément un mouvement de panique ou en tout cas de défiance vis-à-vis de ce vaccin. Donc je pense que ça va avoir des conséquences sur la perception que les gens peuvent avoir de la vaccination, et ça me semble assez dommageable. Je crois qu'il y avait d'autres moyens de gérer ce problème-là, qui en effet mérite toute l'attention. Bon, il ne s'agit pas de balayer d'un revers de la main les risques que peuvent présenter un vaccin.
Oui. Gilles, justement, vous voulez revenir sur la campagne de vaccination et ce que ça dit de la décision politique, cet épisode AstraZeneca.
Oui, alors je partage un point, et je le prolonge même de ce que disait Natacha, sur l'absence de coordination de la décision en Europe. C'est vrai en amont de la décision de suspension, elle vient de le dire, c'est vrai en aval, après la décision de l'autorité européenne, on voit que les décisions nationales se font en ordre totalement dispersé. Vous avez des pays qui n'ont pas encore réagi, des pays qui ont repris, des pays qui ont repris partiellement comme la France, des pays qui n'ont pas repris encore, donc sans cette coordination-là, elle ne va pas. L'autre question, c'est ce que vous évoquez, les effets de cette semaine, après qu'on la juge invraisemblable ou pas, sur la vaccination elle-même. On l'a dit à quel point déjà cette campagne était difficile en France. La question, c'est est-ce que ce qui s'est passé va rassurer, parce que on a fait preuve de prudence, lorsqu'il y avait un doute, on s'est arrêté, on a demandé aux autorités scientifiques et on reprend. Donc est-ce que ça va rassurer ou est-ce que cela va inquiéter, et notamment sur ce vaccin AstraZeneca qui, depuis le début, est plus problématique que les autres, puisque dans cette balance bénéfice-risque qu'évoquait Natacha Polony, il y a eu au départ des questions sur le bénéfice, puisqu'il n'était pas ouvert aux plus de 65 ans, oui. Et aujourd'hui, il y a des questions sur le risque, puisqu'il n'est, pour l'instant, il y a des investigations supplémentaires sur les moins de 55 ans, et donc tout ça, évidemment, fait que en termes de lisibilité, c'est compliqué. La confiance dans ce vaccin-là est aujourd'hui beaucoup plus faible, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir une sorte de benchmark où chacun va vouloir aller faire son propre marché et choisir son vaccin.
On va comparer comme dans un téléachat où l'on compare les produits les uns avec les autres, un mot, Natacha.
Oui, un mot pour pousser cette question du rapport entre le bénéfice et le risque. Je pense que c'est une question majeure. Et qu'en fait, ce que nous raconte cette histoire, c'est l'évolution, et on en revient toujours là dans toutes nos discussions, dans tous nos débats, l'évolution du rapport entre l'individuel et le collectif dans nos sociétés. C'est-à-dire que là, cet épisode, le risque vaccinal, nous met en face, à titre individuel, en face de ce questionnement, est-ce que le risque que je prends vaut pour préserver la collectivité ? Parce que c'est le calcul que font la plupart des gens. Et donc, s'ils perçoivent que se faire vacciner est risqué, ils ne le feront pas parce qu'il leur semble que leur risque d'attraper cette maladie et de développer une forme rare est finalement dilué par rapport au risque qu'ils prennent en choisissant, en utilisant leur libre arbitre pour choisir véritablement d'aller se faire vacciner. Cette question-là, nous devons la penser. Pourquoi ? Parce qu'elle se pose dans un nombre incalculable de domaines. Alors évidemment, en termes de vaccination, on se dit que la vaccination et l'éradication de la variole n'auraient jamais été possibles aujourd'hui. Le vaccin était beaucoup plus risqué. Mais dans d'autres domaines, ce rapport individuel-collectif bloque les sociétés démocratiques occidentales, et je pense qu'il faut il faut aller au fond de ce sujet-là.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Nous sommes le seul pays au monde qui a une centrale nucléaire en amont du fleuve qui dessert la capitale. Un accident et c'est fini. Or, nous allons à l'accident pour plein de raisons. Donc je dis, on renouvelle tout. Vous me prenez sur la date. Alors, je reprends à peu près le scénario négawatt, donc ça m'amène à normalement à 2030. Mais moi, je trouve que c'est trop long, tout ça.
Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, député des Bouches-du-Rhône, il était l'invité de la matinale de France Inter lundi matin. Pourquoi est-ce que vous vouliez revenir, Gilles Finkelstein, sur ces mots de Jean-Luc Mélenchon qui met en avant la question écologique et qui, dans cette pré-pré-campagne présidentielle, s'intéresse à la question du nucléaire qui sera, à n'en pas douter, une question qui sera abordée par les différents candidats?
Écoutez, à n'en pas douter, je n'en sais rien. Et au moins, il faut savoir gré à Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait entrer la question de l'énergie dans le débat politique, dans le débat public, parce que c'est un débat qui est absolument majeur. Et on peut même partager la perspective d'une réflexion sur la fin du nucléaire pour un certain nombre de raisons. J'ai été en revanche extrêmement surpris lorsque j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit 0% de nucléaire en 2030, voire avant 2030, et une réduction de notre consommation d'énergie. J'ai été surpris au début et après avoir travaillé un peu plus, sans être un spécialiste de l'énergie, je suis encore plus surpris aujourd'hui et même en profond désaccord. Il y a un premier désaccord très important qui est que cette priorité-là me paraît mal ciblée. 0%, une baisse de l'électricité. Pourquoi ? Le défi qu'on doit affronter, c'est la réduction de notre production de gaz à effet de serre. Oui. Et donc, il faut se concentrer sur la diminution des 2/3 de notre consommation d'énergie qui émettent des gaz à effet de serre, et pas sur la répartition entre les énergies non renouvelables et le nucléaire, du tiers qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le premier désaccord. Ce que l'on a devant nous, chaque Français le voit, ça, c'est l'électrification de nos usages. Quand on réfléchit au changement de notre chaudière à gaz pour de l'électricité, c'est de l'électrification. Quand on change notre voiture pour une voiture électrique, c'est de l'électrification.
Et donc, quand on a notre invité, par exemple, Jean Birnbaum, qui arrive en vélo électrique avec sa batterie, il nous rejoint en studio, c'est aussi de l'électrification.
Et bien voilà. Et donc, on doit avoir à la fois une baisse de la consommation d'énergie et une augmentation de la consommation d'électricité. Et puis le second désaccord, et je termine par là, c'est que l'objectif et le calendrier qu'avance Jean-Luc Mélenchon me semblent absolument pas sérieux. Soit on dit 0% de nucléaire. Si vous avez 0% de nucléaire, il faut bien qu'il y ait autre chose. Donc soit vous avez 100% d'énergie non renouvelable. Si vous avez 100% d'énergie non renouvelable, il y a toutes les études ont été faites là-dessus, il y a un problème technique, là aussi, que tout le monde comprend, c'est lorsque vous avez de l'éolien ou lorsque vous avez du solaire, eh bien, c'est une énergie intermittente et donc il y a un problème de stabilité et un problème d'acceptabilité sociale. Là aussi, chacun le voit quand on fait des éoliennes, quand on fait des fermes solaires, on voit de plus en plus des mobilisations contre. Si on passe à 100%, c'est l'équivalent d'un département français en ferme solaire. C'est 50 parcs éoliens en mer. On a beaucoup de mal à en faire un depuis plusieurs années. Donc tout ça ne me semble pas sérieux. Et si on ne fait pas 100%, je termine vraiment par là, oui. Si on ne fait pas 100% d'énergie non renouvelable, ça veut dire qu'on fait du gaz. Le gaz, c'est à la fois moins bon d'un point de vue environnemental et ça nous met en dépendance par rapport aux pays qui le produisent et notamment par rapport à la Russie. Donc je trouve qu'il y a là un débat qu'il faudra prolonger avec Jean-Luc Mélenchon.
Une réaction, Natacha ?
Une réaction rapide, je souscris à ce que vient de dire Gilles, à ceci près qu'il employait le terme énergie non renouvelable pour énergie renouvelable.
Oui, pardon, ENR, excusez-moi, oui, bien sûr, monsieur.
Précisons-le pour les auditeurs. Mais à part ça, je souscris à cela et j'y ajoute un point qui est le fait que ce qui rend dangereux potentiellement notre parc nucléaire, c'est l'abandon progressif de la formation, des compétences, de la maintenance. Pourquoi ? Justement parce qu'il y a une diabolisation de cette énergie nucléaire. Elle pose un problème, on en a déjà parlé la semaine dernière, un problème majeur, etc. Après, il y a des projets, notamment, je l'avais cité, le projet Astrid, de recyclage des déchets et d'utilisation qui éviterait la dépendance en matière de combustible. Oui. Ce qui est essentiel parce que si nous voulons avoir une énergie qui ne dépend pas de l'étranger, une indépendance énergétique, et c'est un sujet majeur, il vaut mieux ne pas avoir besoin d'aller chercher son uranium ailleurs dans des conditions absolument sordides. Et ça m'amène à juste un petit mot sur sortie de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'elle tient beaucoup compte des enjeux de l'élection présidentielle et du rassemblement à gauche, et c'est cela qui pêche un petit peu, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'entendre là une volonté de se placer comme celui qui ira le plus loin en matière d'écologie pour éviter que les écologistes ne continuent leur jeu qui consiste à dire nous voulons bien un rassemblement à gauche mais derrière nous.